informés tout au long de la journée, écoutez Radio Omega.
Radio Omega.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, messieurs, bonjour. Au sommaire, attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata. Le bilan est passé à 32 personnes tuées, dont 28 gendarmes. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Procès Thomas Sankara, il ne reste plus qu'un accusé pour les auditions. Thibaut Ouédraogo sera à la barre ce matin. Hier, Albert Belemlilga et Diakalia Démé ont livré leur version des faits. Soupçonnés d'avoir participé au désarmement le 15 octobre 87 de la FIDMA, les deux accusés plaident non coupables. Sixième et dernière journée des qualifications africaines pour le Mondial 2022. Le Burkina Faso face à son destin ce soir contre l'Algérie. Un match que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et puis, état de la corruption au Burkina. Il manque une volonté politique pour venir à bout du phénomène, selon notre invité du jour, Dr Rassabga Ouédraogo de l'Institut Free Afrique. Sécurité au Burkina, le bilan de l'attaque contre le détachement de la gendarmerie à Inata, à l'extrême nord du Burkina, passe de 20 à 32 personnes tuées, dont 28 gendarmes et 4 civils. 27 gendarmes ont été retrouvés selon les derniers chiffres du gouvernement publiés hier lundi 15 novembre. En compassion avec les familles et en union avec l'ensemble de la nation, un deuil national de 72 heures allant du mardi 16 novembre à 0 heures au jeudi 18 novembre à 24 heures a été décrété sur tout le territoire national en mémoire aux victimes, poursuit le communiqué. Et au lendemain de l'attaque, le président du Faso a appelé à l'union sacrée et à la détermination. Nous devons rester soudés et déterminés face aux terroristes et aux forces du mal qui nous imposent une guerre sans merci, a écrit le président du Faso sur Twitter. Et puis le MPP, Mouvement du Peuple Progrès, parti au pouvoir, invite l'ensemble des Burkinabés de l'intérieur ainsi que de l'extérieur à fédérer leurs énergies et leurs intelligences contre le terrorisme, le seul ennemi de notre peuple, peut-on lire dans une déclaration signée par le président du parti Alassane Sakandé. Autre réaction, celle du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Pour Marcel Tankwano, cette énième attaque est la preuve que le gouvernement a échoué dans cette lutte contre le terrorisme et appelle les populations à la retenue afin de mener des réflexions pour définitivement trouver des solutions contre l'hydre terroriste. Marcel Tankwano s'exprime au micro d'Abdoul Kader Konaté.
C'est un échec cuisant. Le gouvernement du Burkina Faso a échoué presque à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Inata a été attaqué combien de fois? Ces zones ont été attaquées, revisitées, si vous voulez. Nous ne pouvons pas continuer. C'est une mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Même quand on prend la hiérarchie militaire, est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas les renseignements qu'il faut? Qu'est-ce qui manque aux hommes? Qu'est-ce qui manque à nos hommes pour qu'ils puissent se défendre? Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à ce qu'on vienne tuer des Burkinabés de façon froide comme ça? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est l'échec du pouvoir en place. C'est l'échec du gouvernement. Il y a une colère populaire au niveau national. Donc il faut d'abord appeler aux gens à la retenue. Nous appelons toutes les composantes, nous appelons tout le monde, les six et les filles du Burkina Faso, à la retenue. C'est dans la réflexion qu'on va savoir, qu'on verra ce qu'il faut faire pour sauver notre pays. C'est pourquoi le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso est dans cette dynamique. Et la dynamique c'est quoi? Nous appelons tous les Burkinabés, ou qu'ils se retrouvent, à nous rejoindre sur le terrain, à venir avec nous pour qu'on trouve une solution définitive qui est celle de protéger tous les Burkinabés où qu'ils se retrouvent. Il n'y a pas une marque qui se prépare, c'est une marche sur Facebook. Nous n'avons pas officiellement été saisis. Nous ne pouvons pas nous mettre dans une activité qu'on n'est pas mis au courant. Le mouvement populaire, souvent le Burkina Faso, est dans cette dynamique de recadrage. C'est-à-dire que ce que nous allons faire là, que ça ne soit pas dans une vision partisane ou un débat partisan. Non, il faut prendre tous les composants de la société au même niveau, au même type d'information.
C'était Marcel Tankwano du mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Les Burkinabés sont meurtris face à cette nouvelle attaque meurtrière qui alourdit le bilan des soldats et civils tombés. Ils demandent que des solutions soient trouvées pour sortir de cette crise sécuritaire. Écoutez des réactions de citoyens ouagalais au micro de Marina Ouédraogo et Jean-Paul Ouédraogo.
Il y a trop de morts, en tout cas, il y a trop, c'est trop, ça nous dépasse même. On a pleuré fatigué.
En gros, même les grands, les colonels, les généraux, ils n'ont qu'à les envoyer en brousse. C'est pas forcément qu'ils vont envoyer les enfants à tout moment que, voilà, ils peuvent se faire tuer. Donc du coup, l'État n'a qu'à mettre le paquet, voilà. Parce que à l'allure où ça va là, sincèrement, ça devient de plus en plus pire.
Il n'y a plus rien, Il ne faut pas qu'ils vont penser que ceux qui font créer le nouveau parti, là, ils peuvent aller faire le campagne à Fada, ils peuvent aller faire ça au Kaya. Dans quel village qu'ils vont rentrer aujourd'hui? Hors de Ouagadougou ici, chacun d'eux, là, quand ils sortent, ils voient qu'il n'y a plus encore Ouagadougou. Il va faire demi-tour parce qu'il sait que là-bas c'est la brousse et bien que les gens là ne sont pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a la peur. Nous qui sommes ici, on a peur. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, toi-même, tu as peur de lui. Si le pays devient comme ça, on n'a plus de pays. Les jours qui vont rentrer à Ouaga, chacun va se cesser. Personne ne va parler encore. Donc, quand même, nous voulons savoir si est-ce qu'ils ont des plans. Pas chaque fois on entend la télé, on dit « Oh, il y a le nouveau plan pour lutter contre le terrorisme. » Mais il y a 6 ans. C'est pas 6 jours, c'est pas 6 mois. Quand même.
Nos petits frères sont tués, il faut qu'on arrête de parler, il faut agir. Tous les jours on parle, à chaque fois, on entend des gens qui sont tués à gauche, des gens qui sont tués à droite. Cherchez une solution. À chaque fois que combien de personnes sont mortes, combien de militaires sont morts, des civils sont morts, des enfants sont morts, il faut qu'on arrête. Il faut agir. Depuis 2015, combien de personnes sont mortes, aucune décision n'est prise.
Après ces réactions, le point de l'armée a annoncé que des unités du groupement de forces du secteur centre et est appuyées par l'armée de l'air et une unité d'artillerie ont détruit des refuges de groupes terroristes. Au cours de l'action, 6 engins explosifs improvisés ont été découverts et neutralisés. Plusieurs moyens roulants ont également été récupérés. Ces opérations ont permis la reprise des cours dans plusieurs localités de la zone, a indiqué l'armée. Puis la France condamne fermement cette attaque de la gendarmerie d'Inata dans un communiqué publié par le Quai d'Orsay. Avec l'ensemble des partenaires de la coalition pour le Sahel, la France se tient aux côtés des autorités burkinabées pour lutter contre le terrorisme, peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires français, du ministère français des Affaires étrangères. Situation sécuritaire toujours, les 7 policiers du groupement de compagnie républicaine de sécurité tués sur l'axe Dori et Sakane dans le Sahel ont été inhumés lundi soir au cimetière municipal de Bouassa, banlieue ouest de Ouagadougou, a annoncé le ministère de la Sécurité. Avant d'être conduits à leur dernière demeure, ils ont été décorés à titre posthume de la médaille d'honneur de la police nationale par le directeur général de la police nationale, peut-on lire dans l'annonce du ministère. Procès Thomas Sankara, plus qu'un accusé à interroger au cours de ce procès. Thibaut Ouédraogo sera à la barre ce matin. Hier, Albert Belem-Lilga et Diakalia Démé étaient à la barre pour donner leur version des faits. Poursuivis pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, ils sont soupçonnés d'avoir participé au désarmement de la FIMAD, force d'intervention de la police réputée fidèle à Thomas Sankara. Mais les deux accusés plaident non coupables. Aucun d'eux ne reconnaît les faits qui leur sont reprochés. Les détails avec Abdoul Fattah Tiemtori.
Un binôme à la barre du tribunal militaire ce lundi. Ils étaient tous les deux membres de l'escadron motorisé commando de Pau à l'heure des faits, mais aussi tous les deux joueurs de volley-ball et présents à Ouagadougou pour se préparer à une compétition sportive, selon leur dire. Et le 15 octobre, ils étaient tous les deux sur le plateau de volley du Conseil de l'Entente quand les tirs ont retenti au secrétariat du CNR. On était en train de s'échauffer, précise Albert Belem-Lilga. Au premier tir, dit-il, on a tous fait plaquage au sol et lorsque les tirs se sont arrêtés, chacun a rejoint son unité. Les deux amis disent avoir rallié le poste du peloton de l'EMC, escadron motorisé commando, basé à Ouaga, en face du Conseil de l'Entente. Quand on est arrivé, les éléments étaient en train de démarrer leurs engins. C'est là que Bernard Kabouré, chef du peloton, nous a dit « Vous deux là, mettez-vous en tenue, prenez vos armes et retrouvez-nous au camp FIMAT, sans autre précision. » Les deux amis et collègues s'exécutent et arrivent au camp CRS qui abritait la FIMAT, force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Et c'est là que leur chemin se sépare. Albert Belem-Lilga dit avoir demandé au chef de peloton Bernard Kabouré « Au juste, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et il aurait répondu « Nous sommes venus désarmer les éléments de la FIMAT. Ils sont où ?» demande Belem-Lilga, toujours selon ses dires. « Ce sont eux qui sont sur le terrain », répond son chef de peloton. À en croire l'accusé, le camp a été désarmé en 45 minutes, mais cela avant leur arrivée. Après ça, la mission que j'ai reçue était d'aller en reconnaissance après les rails pour voir ce qui se passait, a poursuivi l'accusé qui reconnaît avoir fait des patrouilles. Mais il assure « Je n'ai jamais tiré un coup de feu à Ouaga le 15 octobre ». Pour Djakalia Démé par contre, on n'en saura pas plus. Il indique qu'il était mécanicien et qu'il n'a pas eu de mission particulière à exécuter. Ça fait 34 ans et ça sera difficile aujourd'hui de vous dire une seule mission que j'ai exécutée ce jour-là, a-t-il répondu au parquet. Mais pour lui, l'intervention à la FIMAT visait à sécuriser les populations. Est-ce que vous n'avez pas pensé que votre mission contribuait à consolider le coup d'État? Lui a demandé le procureur militaire. Négatif, répond l'adjudant-chef à la retraite, ça n'a jamais traversé mon esprit à l'époque. Pour Maître Prosper Farama, il y a anguille sous roche. Quand on observe votre mission, elle est tout sauf une mission de mécanicien, a-t-il lancé après avoir fait constater que Djakalia Démé avait plutôt une Kalachnikov ce jour-là que sa boîte à outils de mécanicien. En plus, concernant l'ordre reçu d'aller à la FIMAT, la version de ces deux accusés a changé entre l'instruction et aujourd'hui. Au départ, Albert Belemlilga avait dit avoir reçu l'ordre du chef d'escadron Thibaut Ouedraogo, également accusé dans ce procès. Djakalia Démé, lui, avait dit avoir reçu l'instruction de bouche à oreille avec les autres éléments pendant même qu'ils étaient sur le terrain de volée, avant même les tirs. Aujourd'hui, ils disent tous les deux qu'ils ont été instruits par Bernard Kabore, le chef de peloton de Ouagadougou.
Et le nom du général Gilbert Diendiéré est revenu lundi au cours de l'interrogatoire d'Albert Belemlilga. Nous restons avec Abdoul Fattah Tiemtouré pour en savoir davantage.
Même après son passage à la barre, Gilbert Diendiéré fait parler de lui. Ce lundi, Albert Belemlilga a fait planer la possibilité que ce soit Gilbert Diendiéré qui ait ordonné l'exécution du chef de corps de l'Étir, escadron de transport et d'intervention rapide basé à Camboinsin au nord de la ville. Ce corps, tout comme la FIMAT, était considéré selon plusieurs accusés comme acquis à Thomas Sankara. Au cours de son interrogatoire, Albert Belemlilga a confié avoir rencontré un certain Gaspard Sommé, un soldat de l'Étir, dans une station d'essence. Ce serait lui qui l'aurait informé de la mort de Thomas Sankara dans la fusillade à laquelle lui-même Belemlilga a quasiment assisté quelques heures plus tôt. Il m'a dit qu'il partait rendre compte au conseil de ce qui s'est passé à l'Étir, a affirmé Albert Belemlilga. Il m'avait dit qu'il avait tué son chef de corps, Kwame Michel, à domicile pendant qu'il portait sa tenue militaire et de dos, avait-il affirmé chez le juge d'instruction. Dans une autre intervention, l'accusé avait nommément cité Gilbert Diendiéré comme étant celui à qui Gaspard Sommé allait rendre compte. Dans l'armée, quand on rend compte à quelqu'un, ça suppose qu'on a reçu mission de cette personne, note le procureur militaire, acquiescé par l'accusé, permettant au procureur de poursuivre. Donc c'est Gilbert Diendiéré qui a ordonné d'exécuter Michel Kouama. Ça c'est selon moi, ma conclusion à moi, a répliqué Albert Belemlilga. Selon lui, Gaspard n'a pas précisé qu'il s'agissait du lieutenant de l'époque Gilbert Diendiéré. Les déclarations faites devant le juge d'instruction seraient donc le résultat d'une déduction que lui-même aurait faite, puisque Gilbert Diendiéré était à l'époque le commandant du camp Conseil de l'Entente.
Merci à Abdoul Fattah Tiemtouré pour ce compte-rendu des auditions. On vous retrouve à 12h15 pour la suite. Omega Sport. Les étalons du Burkina affrontent cet après-midi à partir de 16h temps universel, 17h heure locale, l'Algérie pour la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les étalons joueront cet après-midi sans pression aucune. Ibrahim Bayili.
Parti de Marrakech ce lundi matin, les Burkinabés sont arrivés à Alger autour de 12h. Ils ont élu leur base dans un hôtel de la capitale algérienne. L'après-midi, ils étaient au stade Mustapha Tchekker pour une prise de contact avec la pelouse. C'est dans une bonne ambiance que les étalons ont effectué un travail léger et pour l'entraîneur national, la pression a changé de camp et les enfants sont prêts à mouiller le maillot.
Vous avez dû assister à la séance avec nous. Vous voyez qu'il y a une très bonne ambiance. Les jeunes ont compris qu'il y a la pression à changer de camp. Il n'y a plus de pression. Voilà. Et je pense que nous sommes conscients que les garçons sont conscients qu'ils jouent un gros coup. à Blida. C'est comme on l'a dit, dans un message du ministre, il nous disait que nous partons vers notre destin. Donc les garçons sont conscients, l'état d'esprit est au beau fixe.
La pelouse justement du stade Mustapha Tcheker est en pleine réfection. Le gazon tarde à mieux prendre. La pluie aidant, il sera difficile à pratiquer. Mais Kamoumalo reconnaît que le terrain est là pour tout le monde.
Bon, vous-même vous constatez avec moi que je pense que quelque part on a été arnaqué, parce que moi je trouve que cette pelouse n'est pas digne de cela, d'intérêt, parce que je pense que le stade du 4 août même pourrait être comparé à ça. C'est une pelouse qui vient d'être remise en forme. Vous voyez, quand vous mettez le pied dessus, ça bouge sous vos semelles. Alors, avec cette pluie aidant, bon, ce n'est vraiment pas ça. Je ne sais pas comment la CAF a pu valider un tel terrain. Bon, et cela nous fait que nous, on va s'adapter. Dans tous les cas, le terrain est là pour tout le monde.
Hervé Koffi Kouakou sera certainement d'attaque pour ce match de ce mardi soir. Le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a, dans un message, encouragé les jeunes à se donner à fond pour donner du sourire au peuple burkinabé meurtri par les attaques. Cette finale de ce groupe sera dirigée par un trio sud-africain. Ibrahim Bayili, Blida, Omega Media.
Et comme annoncé en titre, ce match Burkina Faso-Algérie est à suivre en direct sur Radio Omega à partir de 16h.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité est le directeur de l'Institut Free Afrique, Dr Assablega Ouédraogo. Avec lui, on parle encore de corruption, un phénomène qui persiste selon lui parce qu'il manque une volonté politique. Dr Assablega Ouédraogo est interrogé par Denis Zongrana.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
La corruption, on voit que ce sont les mêmes acteurs qui reviennent, qui s'échangent. On a l'impression que les rapports qui sont produits n'impactent pas. Heureusement, donc, le secrétaire exécutif du RENLAC a su qu'il y a un travail qui est mené. Mais comment comprendre justement que la corruption continue à avoir la produit dans ces milieux-là qui ne cessent d'être dénoncés?
Oui, plusieurs choses. La première, c'est que, d'abord, qu'est-ce que la corruption? C'est simplement une situation dans laquelle la fonction publique est abusée pour des intérêts personnels, des intérêts d'une tierce personne autre que l'intérêt général, donc. Et ce que le RENLAC fait peut laisser le sentiment qu'il n'y a pas d'impact, comme vous l'annoncez. Mais moi, j'ai eu la chance, dans une autre vie, d'être consultant pour le RENLAC, pour également, justement, regarder quel est l'impact de son travail. Je peux vous annoncer deux choses, par exemple. La première, c'est que vous savez que votre métier était classé à un moment donné régulièrement, les médias, la presse. Je sais qu'il y a eu des réformes au sein des patrons de presse liées, par exemple, au fait qu'on donne désormais du carburant aux journalistes qui vont sur le terrain, ainsi de suite. Et les témoignages que j'avais recueillis indiquaient très clairement que c'est parce que le RENLAC l'est classé régulièrement comme tel. Il y a un code de déontologie dans un média public qui est parti du fait que le RENLAC l'est classé toujours en avant. Et deuxième chose, il faut bien comprendre que c'est des perceptions qui sont récoltées. Et en conséquence, qu'est-ce que la population voit le plus? Elle ne voit pas le gros fraudeur dans un bureau d'un politicien en train de le financer pour sa campagne, ainsi de suite. Ce qu'elle voit, c'est ce qui est sous ses yeux. Et donc, en conséquence, les forces de défense et les forces de sécurité intérieure sont très visibles par les populations, les motocyclistes, les gens en voiture dans les circulations, ainsi de suite. Donc cela peut expliquer cette récurrence. Mais il faut prendre ça très au sérieux, à savoir que cela témoigne d'une grande préoccupation, mais aussi peut-être d'un discrédit qui est jeté donc sur nos forces de sécurité intérieure. Maintenant, est-ce que ça veut dire pourquoi ça ne change pas en gros? Je crois qu'il y a fondamentalement une chose sur laquelle il faut revenir, c'est la volonté politique. Parce que, objectivement, nous sommes dans une situation où il y a plusieurs acteurs qui font leur rôle. Il y a en particulier une très belle loi qu'on a adoptée en 2015. Mais à l'évaluation, ce que nous voyons, c'est qu'il y a guère jamais de volonté politique pour suivre les recommandations, que ce soit celle du RENLAC, de Free Afrique ou d'autres acteurs, pour faire en sorte que la lutte anticorruption soit au cœur des politiques publiques. C'est ça qui est fondamentalement le problème. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de punition. Et la punition, ce n'est pas d'abord même la justice, c'est la punition administrative. Si on dit que tel est soupçonné de corruption et que tous les faisceaux d'indices sont convergents et qu'il y a des autorités qui disent non, il ne peut pas quitter sa place, il reste là, y compris quand il y a des soucis en justice, ça donne le sentiment qu'on est dans un environnement d'impunité. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est la réalité. Et comme l'impunité est là, personne n'a peur de s'y engager. On se dit ok, on va s'y engager. Il n'y a qu'une infime partie des cas qui vont être punis et en conséquence, l'espérance de gagner étant très élevée, eh bien, on y va à fond.
Que là, apparemment, on risque de se retrouver les mêmes acteurs à tour de rôle, tantôt à la première, à la deuxième place.
Écoutez, alors qu'il y a d'autres volets. S'il y a la fièvre, le thermomètre va toujours indiquer élevé. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'il faut savoir que depuis que c'est le classement où les forces de sécurité intérieure sont devant, est-ce que vous avez connaissance sur les 5 dernières années d'une vraie opération main propre en leur sein, d'un déploiement exceptionnel de l'inspection en leur sein? Il n'y a pas grand-chose, c'est ce que j'indique. Et donc c'est plutôt en réalité convergent avec le ressenti qu'on peut avoir, avec l'observation qu'on peut faire des mesures qui ne sont pas prises, qui ne sont pas attendues. Je voudrais indiquer que ce n'est pas le RELAC qui est en difficulté vis-à-vis de ça, c'est tous les chercheurs. Moi, je suis chercheur. D'un point de vue des indicateurs pour mesurer la corruption, c'est extrêmement difficile. Dans le meilleur des mondes, il lui a fallu avoir effectivement cet appareil qui détecterait tout, comme on peut détecter des métaux à travers et qui signalerait. En dehors de cela, parce que l'acte de corruption étant par nature un acte délictueux illégal, il se fait toujours de façon confidentielle, plus ou moins confidentielle en tout cas. Et en conséquence, c'est très difficile de le saisir. Mais ce qui est fait par le RENLAC a une base scientifique très appréciable et c'est un excellent outil de gouvernance. Observez, si vous regardez la perception de la corruption dans les rapports récents du RENLAC, ils ont indiqué très clairement qu'entre 2014 et 2015, la part de la population qui pense que la corruption progresse a baissé de manière très forte. En d'autres termes, à l'occasion du renouveau politique, les témoignages des citoyens sont convergés à ce qu'on peut attendre, qui est qu'effectivement, il y a un recul de la perception de la corruption. Mais ce qu'ils nous disent qui est très inquiétant, c'est que depuis 2016, ça ne fait que monter. Y compris le rapport qui a été diffusé avant-hier le montre également. Donc c'est toujours des limites méthodologiques, mais fondamentalement, il y a une base scientifique qui est là et qui n'est pas suffisante pour discréditer le travail, pour indiquer que, voilà, comme il y a des fautes méthodologiques, parce que c'est aussi une rhétorique possible de la part de ceux qui sont mis en cause. Mais même si on le fait ainsi, on se voile la face. La réalité est très clairement celle-là, que sur un échantillon représentatif de la population burkinabé, de façon récurrente et convergente, y compris avec d'autres indicateurs, dont l'indicateur de transparence internationale, qui n'est pas burkinabé, qui n'est pas le RELAC, sont très convergents avec ce que le RELAC dit. Et y compris également les indicateurs qu'on peut lire dans la presse. Regardez le nombre d'affaires qui explose depuis quelques années dans notre presse. Donc ça montre très clairement qu'au-delà des difficultés à saisir l'essentiel de façon pure, on est dans un indicateur qui est très intéressant, qui nous donne des perspectives très intéressantes.
C'était l'invité de la rédaction.
Docteur Rassabga Ouedraogo, le directeur de l'Institut Free Afrique, répondait aux questions de Denis Ongrana. L'Institut Free Afrique est un organisme indépendant à but non lucratif dédié à la recherche sur les économies ouest-africaines basé à Ouagadougou. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tienrebego. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.
Bonne nouvelle! Pour avoir en direct avec Radio Omega les informations nationales et internationales, nationales et internationales, nationales et internationales.